Bonjour à tous. Le secrétaire général va maintenant vous faire un point de situation sur les deux réunions d'aujourd'hui et ensuite il se tiendra prêt à répondre à votre question. Monsieur le secrétaire général.
Bonjour, nous venons de terminer une réunion avec tous les alliés de l'OTAN et les partenaires en configuration Resolute Support. Nous avons réaffirmé notre engagement en faveur de la sécurité et de la stabilité à long terme de l'Afghanistan et nous nous tournons maintenant vers les élections présidentielles de l'année prochaine. Il est important que les autorités afghanes améliorent le processus électoral et contrôlent les bases de données servant à l'enregistrement des électeurs, car des élections réussies renforceront le cheminement de l'Afghanistan vers la stabilité et la paix. Et dans ces efforts de paix, les talibans doivent comprendre que poursuivre la lutte est sans intérêt et ne fera que provoquer davantage de souffrance. Il faut qu'ils s'assoient à la table de négociation. Nous restons engagés à soutenir l'Afghanistan, ce qui est bon, bien évidemment, pour le peuple afghan, et cela sert aussi nos intérêts. En effet, un pays stable et sûr contribue à la sécurité de nous tous. La nuit dernière, nous avons formulé notre réponse aux défis émanant de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord dans son ensemble, dont la nouvelle mission d'entraînement de l'OTAN en Irak qui aidera le pays à s'attaquer aux racines du terrorisme et apportera une autre contribution importante à la lutte contre le terrorisme international. Ce matin, nous avons parlé des Balkans occidentaux. Nous étions rejoints par la haute représentante et vice-présidente de l'UE, Federica Mogherini, ce qui démontre une fois de plus que l'OTAN et l'Union européenne partagent un engagement pour la stabilité et la sécurité de la région. Les alliés ont débattu des progrès accomplis par Skopje dans le processus d'adhésion. Les pourparlers d'adhésion ont déjà commencé et le Parlement à Skopje devra désormais terminer ce processus et saisir cette occasion historique pour faire entrer ce pays dans l'Alliance. Aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN ont décidé d'apporter un soutien continu à la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des réformes. Et nous sommes prêts à accepter la présentation du premier plan national annuel de ce pays qui présente des mesures pratiques, notamment en matière de réformes politiques, économiques et de défense, permettant de préparer ce pays à une adhésion. Il incombe maintenant à la Bosnie-Herzégovine de prendre le prochain pas et de décider si ce pays souhaite accepter cette offre. Enfin, à propos du Kosovo, nous avons parlé de l'intention du Kosovo à poursuivre la transformation de la force de sécurité du Kosovo en armée. Une telle mesure ne serait pas à un moment opportun et irait contre l'avis de beaucoup des alliés de l'OTAN et pourrait avoir des conséquences graves en ce qui concerne l'intégration euro-atlantique future du Kosovo. Cela dit, les nouveaux tarifs introduits par Pristina provoquent de nouvelles divisions. De telles mesures rendent le dialogue entre Belgrade et Pristina de plus en plus difficile. Nous encourageons Belgrade et Pristina de faire preuve de retenue et d'éviter des mesures provocatrices et des déclarations provocatrices et de réaliser les compromis nécessaires permettant de progresser vers un avenir plus sûr. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se réuniront pour la prochaine fois en avril à Washington et les chefs d'État et de gouvernement se rencontreront plus tard cette année-là pour célébrer le 70e anniversaire de notre alliance. Ce sera l'occasion de faire le bilan sur ce que les alliés ont réalisé ensemble, la paix, la sécurité et la prospérité en Europe et en Amérique du Nord. Ce sera également un moment pour se tourner vers l'avenir et comment l'OTAN réagit à un monde de plus en plus imprévisible. L'OTAN doit continuer de s'adapter pour assurer la sécurité de nos pays dans les décennies à venir. Sur ce, je suis prêt à répondre à vos questions.
Question. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. J'aurais une question concernant le processus de paix en Afghanistan. Est-ce que vous pensez que les puissances régionales comme l'Iran, le Pakistan, la Russie aident et soutiennent le processus de paix dirigé par les Nations Unies en Afghanistan?
Nous appelons à tous les pays dans la région à jouer un rôle constructif pour soutenir le processus de paix pris en charge et dirigé par l'Afghanistan et éviter tout soutien à l'insurrection, y compris avec un soutien aux talibans. Il ne faut pas non plus assurer un sanctuaire pour les insurgents.
One TV in the third row in the middle. Thanks.
Monsieur le secrétaire général, ma question porte sur le remplacement du haut représentant civil à Kaboul. Quels sont les détails du remplacement de l'ambassadeur Zimmerman?
Je suis heureux d'annoncer que j'ai nommé Nicholas Kay comme prochain haut représentant civil de l'OTAN en Afghanistan. Il assumera ses fonctions en mars 2019, l'année prochaine. Ce Nicholas connaît très bien le pays. Il était en effet pendant plus d'un an l'ambassadeur du Royaume-Uni à Kaboul. Et je le félicite pour ce nouveau rôle et j'attends avec impatience notre coopération future. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier l'ambassadeur Zimmerman pour son service très distingué en tant que haut représentant civil de l'OTAN et dans le cadre de la mission Resolute Support à Kaboul. Merci pour cet engagement et j'attends avec impatience de travailler avec le nouveau haut représentant civil.
America, lady in the second row. Yep.
Sur la base de rapports, le nombre de victimes civiles ont augmenté. Les pays régionaux s'ingèrent en Afghanistan plus que par le passé et la situation sécuritaire se dégrade au quotidien. Au vu de tous ces éléments, dans quelle direction va le pays ?
Nous sommes bien évidemment gravement préoccupés par le grand nombre de victimes. Nous avons pu observer la violence, notamment des attentats suicides et des pertes dans les forces de sécurité afghanes, ainsi que des pertes dans les troupes de la mission Resolute Support, ce qui rend d'autant plus important notre travail de formation de conseil et d'assistance des forces de sécurité afghanes qui sont désormais responsables de la sécurité dans le pays. Elles ont maintenant le rôle qui était assumé auparavant par plus de 100 000 troupes Resolute Support ou FIAS. Et sachez aussi que, alors que nous souhaitons progresser dans un véritable processus de paix, nous avons constaté dans d'autres conflits que les violences s'accumulent car les différentes parties tentent de trouver une meilleure position à la table de négociation. Donc la situation pourrait s'empirer avant qu'elle ne s'améliore dans le pays. La réunion qui vient de se terminer démontre l'unité parmi les alliés et les partenaires en faveur de ces efforts de formation et de conseil d'assistance, notamment financière, pour les forces de sécurité afghanes.
Merci, Média du Monténégro. Vous avez une réunion avec Federica Mogherini ce matin. Pouvez-vous nous dire quelles sont les perspectives en termes de coopération OTAN-UE, notamment pour les Balkans occidentaux? Et à cet égard, comment est-ce que l'idée d'une armée européenne pourrait affecter les petits pays membres de l'OTAN comme le Monténégro, qui souhaite également devenir membre de l'Union européenne, mais qui déploie ses capacités militaires dans le cadre de l'OTAN? Merci.
Tout d'abord, l'OTAN et l'Union européenne ont vraiment augmenté leur coopération à un niveau inédit, ce qui est louable, d'après moi, car nous partageons le même voisinage, les mêmes défis de sécurité. Souvenons-nous que plus de 90% de la population de l'Union européenne réside dans un pays de l'OTAN. Donc, nos deux organisations ont beaucoup en commun. mais je soutiens aussi les efforts de l'UE en matière de défense, car les efforts comme la CSP, la coopération structurée permanente ou la réforme de défense européenne, la mobilité européenne, tous ces éléments contribueront à une OTAN plus forte. En effet, plus de capacités, davantage d'investissements, une interopérabilité accrue permettront de renforcer à la fois l'Europe et l'OTAN. Et tant que les efforts de l'UE en matière de défense sont complémentaires plutôt qu'en concurrence par rapport à ceux de l'OTAN, nous sommes toujours en faveur de ces efforts. L'unité européenne ne peut pas remplacer l'unité transatlantique. La sécurité européenne est tributaire de l'OTAN et de la coopération transatlantique. Suite au Brexit, souvenons-nous que 80% des dépenses de défense de l'OTAN seront apportées par des alliés non UE. Trois des groupements tactiques déployés à l'Est seront dirigés par des alliés non UE, à savoir le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. Il en va également de la géographie, la Norvège, l'Islande, la Turquie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis au nord, au sud et à l'ouest sont très importantes pour la sécurité européenne. Donc nous saluons les efforts de l'Union européenne tant qu'ils sont complémentaires par rapport à ceux de l'OTAN. Et c'est également le message que nous donne l'Europe. On ne souhaite pas être en concurrence par rapport à l'OTAN.
Médias du Pakistan. Monsieur le secrétaire général, il y a des pressions sur le Pakistan. On critique le Pakistan et maintenant le président Trump a demandé que le Pakistan les aide pour qu'ils puissent se retirer d'Afghanistan. Est-ce que nous allons voir de grands changements maintenant? Est-ce que nous avançons vers une solution, une approche régionale, une solution régionale? Merci.
La situation en Afghanistan demeure difficile avec la violence, de nombreuses victimes, l'instabilité. De nombreux problèmes persistent. Cela dit, il y a quelques signes encourageants, dont le premier cessez-le-feu à l'échelle du pays cette année, les débuts d'un processus de paix et des élections législatives dans lesquelles des millions d'électeurs ont affirmé leur droit de vote, dont un tiers de femmes. Il faut poursuivre nos efforts sur ces bases et c'est en assurant un soutien aux forces de sécurité afghanes que l'on peut permettre le progrès, afin que l'on envoie un message très clair aux talibans, comme quoi la victoire ne se fera pas sur le champ de bataille, la seule méthode possible est la négociation. Le Pakistan et tous les autres pays limitrophes de l'Afghanistan doivent venir appuyer le processus. Tout processus alternatif ne fera que rendre les efforts en faveur de la paix plus difficiles. Donc il faut appuyer le processus pris en charge et dirigé par l'Afghanistan.
Bonjour. Merci. Le nouveau gouvernement CENTCOM proposé avec le général Kenneth McKenzie hier a dit que les forces de sécurité ont un niveau insoutenable de pertes. Êtes-vous d'accord avec cette évaluation et qu'est-ce que cela signifie pour l'OTAN en Afghanistan?
J'ai récemment rendu visite à l'Afghanistan accompagné du SACEUR et du président du comité militaire de l'OTAN et nous avons rencontré le général Scott Miller ainsi que les commandants militaires de l'Afghanistan, et nous avons parlé de ce niveau d'usure, de ce niveau de perte important. C'est un point qui est très prioritaire dans nos dialogues avec les forces de sécurité et l'armée afghane. Il en va de la formation, du matériel, du commandement et du contrôle, ainsi que de la posture. Trop de positions statiques qui rendent vulnérables les forces de sécurité afghanes. Toutes ces questions ont été prises en compte. En effet, il s'agit du seul moyen de réduire le taux de perte et pour assurer une situation pérenne, plus stable pour les forces de sécurité afghanes. Je partage les préoccupations à propos de ce niveau élevé de pertes, mais la conséquence n'est pas que notre présence s'amenuise, mais c'est d'assurer un soutien déterminé permettant aux forces de sécurité d'augmenter leur capacité et leur résilience. Par conséquent, nous travaillons en matière d'éducation militaire, de commandement et de contrôle, les académies militaires, le développement de l'armée de l'air, ainsi que les forces spéciales, et beaucoup de progrès sont en cours.
Associated Press, je me demandais pour la Bosnie. Est-ce que vous allez attendre devant le fax cette ANP? Quelles sont vos attentes? Pensez-vous qu'il y aura des évolutions positives au vu des résultats des élections? Et vous avez parlé des événements de l'année prochaine. Pouvez-vous nous en dire davantage, peut-être sur la réunion des dirigeants qui pourrait avoir lieu?
Je n'ai pas vu de fax depuis des années. Je ne sais même pas s'il y en a un dans ce bâtiment. S'il y en a un, on ne va pas le montrer. Donc c'est à quelqu'un d'autre de recevoir cette communication. Désormais, il incombe à la Bosnie-Herzégovine de prendre la décision. Nous avons pris la nôtre. Nous sommes prêts à recevoir leur programme national annuel. Mais laissons au pays décider. Et ensuite, nous serons prêts, s'ils le sont. Ce que nous avons décidé, c'était qu'il y aurait une réunion des ministres des Affaires étrangères en avril, l'année prochaine, où nous célébrerons le 70e anniversaire de l'Alliance. En effet, le traité de Washington a été signé à Washington en avril 1949. C'est la raison pour laquelle nous nous rendons à Washington en avril. Nous n'avons pas encore décidé à quelles seraient les dates précises ou le lieu de la réunion des dirigeants, mais cette réunion aurait lieu plus tard dans l'année, probablement l'automne.
Bonjour. Pour revenir sur la question du FN, aujourd'hui, le président Poutine a dit que si les États-Unis se retiraient, il commencerait maintenant à produire un missile à capacité nucléaire de moyenne portée. Alors nous savons que cela a été fait il y a des années, mais néanmoins cela préoccupe les populations. Et au cours de cette prochaine période de 60 jours, comment percevez-vous le rôle de l'OTAN? Est-ce que vous allez essayer de contacter la Russie, obtenir davantage d'informations? Est-ce que vous pensez que c'est à l'OTAN de le faire ou est-ce que c'est au gouvernement des alliés? Merci.
La Russie nie depuis des années d'être en violation du traité FNI, mais nous les confrontons à répétition avec des faits, des informations, nos propres évaluations, et tout de même la Russie nie toute violation et nie même l'existence d'un nouveau système de missiles. Mais plus récemment, ils ont été obligés d'avouer qu'ils disposent d'un nouveau système de missiles. Et la Russie tente désormais d'informer le monde que ce nouveau système de missiles n'est pas en violation du traité. Donc, il était bizarre qu'ils aient renié l'existence d'un tel système depuis des années s'il était conforme au traité. Deuxièmement, tous les alliés sont d'accord sur le fait que la Russie est en violation du traité FNI. Tous les alliés sont également d'accord sur le fait que les États-Unis sont en conformité avec le traité. Il n'y a pas de nouveaux missiles des États-Unis en Europe, mais il y a des nouveaux missiles russes, les SSC-8, qui sont mobiles, difficiles à détecter, dotés de capacités nucléaires, à portée des grandes villes européennes, et le système d'alerte est encore plus réduit. Ce type d'armes avec des capacités nucléaires, avec un préavis réduit, sont encore plus dangereux que d'autres types de missiles, car on augmente la probabilité d'utilisation des armes nucléaires en situation de conflit. C'est la raison pour laquelle nous sommes aussi gravement préoccupés à ce sujet depuis des années. C'est la raison pour laquelle les États-Unis et d'autres alliés et l'OTAN même ont soulevé cette question auprès de la Russie depuis des années, notamment en Conseil OTAN-Russie il y a quelques semaines. Plusieurs alliés ont annoncé dans une réunion hier qu'ils allaient aborder cette question FNI avec la Russie à titre bilatéral. Nous sommes prêts à en parler en Conseil OTAN-Russie de nouveau, comme c'est le cas depuis des années. C'est la dernière occasion pour la Russie de démontrer la conformité au traité FNI, mais il faut également se préparer à l'absence d'un traité. C'est ce que nous faisons en donnant cette dernière chance à la Russie, mais également en nous préparant aux conséquences pour l'OTAN d'une dislocation de ce traité.
Vous avez parlé des tarifs et de la création d'une armée du Kosovo, la transformation des forces comme étant les éléments qui créent davantage de tensions entre Pristina et Belgrade. Devons-nous conclure que la Serbie se conforme pleinement à la normalisation des relations avec le Kosovo? Et deuxièmement, pouvez-vous nous spécifier quel type de répercussions pourraient avoir lieu envers Pristina s'ils poursuivent cette transformation des forces de sécurité du Kosovo qui est prévue dans 10 jours?
Nous appelons à ce que Belgrade et Pristina atténuent les tensions et évitent toute prononciation ou action provocatrice. J'ai abordé les nouveaux tarifs introduits par Pristina aujourd'hui, ainsi que leur intention de transformer la force de sécurité du Kosovo en armée. Et comme je l'ai dit aux dirigeants à Pristina, en public ainsi qu'en privé, auparavant, de telles décisions arrivent à des moments inopportuns et l'OTAN soutient la force de sécurité du Kosovo selon son mandat actuel. Tout changement de mandat doit se faire en conformité avec la Constitution. Et ce qu'ils ont annoncé maintenant n'aurait pas lieu dans le cadre d'un processus inclusif avec des consultations avec les alliés de l'OTAN et d'autres pays, inclusif également pour ce qui est du Kosovo. Comme je l'ai déclaré à plusieurs reprises, comme l'OTAN l'a déclaré à plusieurs reprises, en cas d'évolution du mandat de la force de sécurité du Kosovo, le Conseil de l'Atlantique Nord devrait réévaluer le degré de participation de l'OTAN au Kosovo. Nous l'avons exprimé clairement à plusieurs reprises et notre position reste la même. Quelles sont les conséquences? Concrètement, cela devra être décidé par le Conseil de l'Atlantique Nord.
Merci. Johnson, si je me rappelle bien, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Washington il y a 20 ans pour le 50e anniversaire de l'OTAN. Donc je me demande si les différents et les divergences que certains pays européens peuvent avoir avec Trump pousseraient à ne pas avoir de réunion à Washington lors de l'anniversaire.
Pas du tout. Je n'étais pas présent pour le 50e anniversaire, mais je l'étais pour le 60e anniversaire qui n'a pas eu lieu à Washington, mais plutôt à Strasbourg et Kiel, en France et en Allemagne. Tous les anniversaires n'ont donc pas forcément à se tenir à Washington. Nous pouvons les organiser dans de nombreux pays parce que nous avons de nombreux alliés. La ministérielle aura lieu à Washington. Pour ce qui est du lieu de la réunion des dirigeants, il est trop tôt de le dire.
Dernière question. Merci. Je voulais Vous parlez de la revue des fonctions. Est-ce qu'elle a été achevée et comment est-ce que les choses vont évoluer?
Les ministres des Affaires étrangères ont soutenu la revue des fonctions, ce qui était le bienvenu, d'après moi. Cela implique que les ministres appuient la modernisation du siège de l'OTAN, qui arrive à un moment opportun, car nous modernisons l'Alliance dans son ensemble actuellement. Nous avons mis en œuvre le renforcement le plus important de notre défense collective, le niveau de préparation de nos forces. Nous sommes en train d'adapter la structure de commandement avec de nouveaux commandements, l'un à Norfolk et l'autre à Ulm en Allemagne. Nous faisons beaucoup de travail en ce qui concerne la structure de commandement et nous sommes également en train de moderniser notre méthode d'activité ici au siège pour apporter davantage d'efficacité, de concentration des efforts et pour en général améliorer nos méthodes de travail ici au siège. Je suis convaincu de l'importance de la des efforts de modernisation pour l'OTAN, le seul moyen de maintenir des organisations internationales fortes, c'est de les moderniser en permanence. J'ai souvent souhaité moderniser le secteur public en Norvège, ce qui n'est pas facile, et ce n'est pas forcément facile à l'OTAN, mais beaucoup de progrès ont été réalisés, ce qui est très encourageant.
Merci, cela conclut cette conférence de presse et la ministérielle. Merci.